On a évoqué hier la personnalité d'Yves Rocard. Il s'en déduit des méthodes de travail qui, pour certaines, étaient originales. Et assurément, l'environnement de travail au LAL, au démarrage électronique, était la continuité de ce qu'il était à l'ENS. C'est-à-dire que l'électronicien avait dans son activité une grande part d'activité manuelle. Et j'étais très très surpris d'apprendre par les grands anciens que, en fait, tout ingénieur, tout technicien qui arrivait avait d'abord un stage de mécanique, un stage de plusieurs semaines, à savoir le fait que ça démarrait de l'usinage, fraisage, tout ce que vous imaginez, ça passait par la brasure, la soudure, et ça terminait par la peinture. C'était la méthode Rocard. Ça s'explique aussi par le fait qu'il y avait très peu de câbleurs, et j'ai appris, en interviewant des collègues, qu'effectivement les câbleurs étaient prêtés, je dis bien prêtés, par l'industrie. Ce qui imposait évidemment, donc, au reste du personnel, d'assurer l'ensemble des travaux pratiques. 58, c'est l'époque des tubes, je vous présenterai. C'est l'époque, donc, des gros fers à souder, de la grosse quincaillerie, disons. Et puis, évidemment, c'est la règle à calcul à l'époque. Il n'y a pas de circuit imprimé. Et donc, je dirais, sans aucune ironie, je représente ce slide plus loin de ce que j'appelle les montages 3D, où on trouvait des poteaux et les fils qui étaient tendus entre les poteaux. Je ne commenterai pas, c'est simplement pour la nostalgie de certains qui reconnaîtront, et ces appareils sont sortis de notre musée, donc des appareils qu'ils ont pu connaître à l'époque. Il est clair que le service est né de la nécessité de développer une instrumentation qui soit réellement spécifique. Alors les thèmes, j'en donne quelques-uns. Les échelles de comptage à l'époque, c'était 100 kHz. Il s'agissait de passer à 1 méga. Évidemment, tout se faisait avec des tubes. L'affichage, je ne sais pas si vous connaissez les tubes trocotrange, je dois dire que j'ai découvert. Je connaissais les tubes Nixie, par contre. Bon, plus personne ne doit les connaître aujourd'hui. Donc, pour donner un exemple de ce qui pouvait faire l'objet d'intérêt à l'époque au niveau des études, vous avez un intitulé des mémoires CNAM de l'époque dessous. Et l'ensemble de ces électroniciens se trouvait dans essentiellement le service électronique, le service de Georges Allon, et également pour une partie dans le groupe de radioprotection. Et on trouve des thèmes qui relèvent effectivement de la détection de rayonnement et partant de l'électrométrie. Je ne vais pas commenter, il s'agit là de scans faits sur des documents d'époque. Les collègues grands anciens qui sont présents reconnaîtront leurs petits. Je citerai simplement, parce qu'il y a eu d'excellents travaux et très nombreux, quelques noms. Je citerai celui de Roger Bossard, celui de Raymond Roche qui est ici présent. Et puis, volontairement, je mets le nom d'un physicien à droite qui a contribué pour une grande partie à d'excellents travaux qui ont été faits dans le domaine du traitement de signal, ce qu'on appelle les signaux stochastiques en l'occurrence. Alors évidemment, une des évolutions majeures, c'est l'apparition du transistor. Chacun aura reconnu et le tube et le transistor. À droite, vous avez toujours, venant de notre musée, ce qu'on appelait un lampemètre. Vous avez un montage dit 3D à l'arrière avec quelques-uns de ces éléments. Il s'agit là du passage de quelques centaines de volts à quelques volts, et c'est évidemment la voie vers l'électronique intégrée. Vous avez un élément également prêté par un collègue, qui est quelque peu conservateur. Un élément, je donne quelques paramètres, 15 cm de dimension, grosso modo, 2 kg. Un élément qui est une mémoire à tort, mise en œuvre sur ce qu'on a appelé le PEPR, c'est-à-dire un système de traitement d'images, de clichés de chambre à bulles. Et vous avez à droite l'équivalent, sous forme de composant, je dirais, de la décennie suivante. Vous avez en bleu, vous avez une carte correspondant à ce qu'on appelle un bistable, en l'occurrence un double bistable, et vous avez sur la gauche, je ne sais pas comment ça marche, vous avez les composants équivalents. Alors pour ceux parmi mes collègues qui ont quelques souvenirs à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la famille 7400, etc., etc. C'était, pour donner un ordre de grandeur, 4 portes par circuit. Et vous avez donc dans la décennie 90 ce que l'on appelait des PAL. C'était des réseaux de portes. Ce n'était plus 4 portes par circuit, c'était 500 portes par circuit. Et vous avez dans la décennie qui suit ce qui correspond à des réseaux de blocs. Alors effectivement, c'est extrêmement complexe, on ne va pas détailler ici, ce sont des architectures qui sont très sophistiquées. C'est généralement le travail d'une équipe et non d'une personne, parce qu'on arrive à intégrer un ensemble complet à l'intérieur d'un seul circuit. Et pour donner des ordres de grandeur, et vous avez quelques FPGA qui se trouvent sur la gauche, en particulier Actel, par exemple, c'est une étude en cours pour LHSCB, vous avez l'équivalent de 150 000 portes, je compare à 4 dont je parlais précédemment, vous avez 150 000 portes équivalentes dans un circuit. Et pour certains autres, c'est de l'ordre du million, ce qui veut dire qu'effectivement, ça relève du travail d'équipe et la complexité va de pair avec l'utilisation d'outils sophistiqués. Le premier circuit que nous appellerons composite qui est apparu, c'est un circuit dit hybride dans les années 70. Et j'en vois certains qui étaient là. Nous étions sur la même manip à l'époque. C'est un circuit fabriqué par Syntra pour l'expérience DME. Et donc c'est à gauche un circuit avec des éléments discrets, c'est-à-dire effectivement volumiques. Un circuit qui traitait deux voies. Vous avez à droite, je mets en termes de comparaison, vous avez le circuit qui a été fait donc, pour Delphi en 89, c'est 128 voies. Et vous avez dessous, donc en jaune, vous avez, jaune parce qu'il y a beaucoup d'or dessus, si je peux résumer ainsi, vous avez le circuit fait pour Nemo en 93, qui correspond à l'équivalent de 20 000 portes. Alors les circuits intégrés, c'est clairement l'une des vitrines du LAL. Si on devait réactualiser, parce qu'il a deux ans d'âge, je crois, sauf erreur, le document qui est à gauche, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a bien plus de 200 000 circuits installés et sur de nombreuses manips. L'activité a été démarrée en 88 par Alex Rizzo concernant l'aspect full custom. Ces circuits se trouvent installés sur de nombreuses manips, de nombreuses autres études sont en cours et dans ce domaine nous avons des responsabilités au niveau rien de P3. Une autre évolution que je vais présenter maintenant n'est assez loin de l'analogique, mais je dirais on y relie d'une certaine façon, c'est l'aspect standardisation qui est intervenu et je dirais en orientant le travail d'une certaine façon. Il y a plusieurs éléments, plusieurs explications à l'origine de ce fait. D'abord le nombre croissant de voies, j'en donnerai quelques illustrations après, qui implique effectivement qu'au maximum on utilise du matériel industriel. Ensuite le flux d'acquisition croissant. Et puis le fait que quand on collabore à l'intérieur de grandes collaborations, il est clair que les composants doivent communiquer entre eux. Et tout d'abord au sens de l'acquisition. Donc sont apparus différents standards. Le NIM n'était pas un standard d'acquisition. Il est apparu dans les années 70, le CAMAC. Il y a eu une décennie d'études sur un standard qui finalement est un peu mort de sa mort naturelle parce que, je dirais, la complexité était certainement à les limites dans cette affaire. Un standard dit FastBus qui a été développé pour la communauté des hautes énergies et donc beaucoup de travaux faits tant au CERN que dans l'ensemble des laboratoires. On s'oriente plutôt, et je dirais avec une évolution de ce standard, vers la continuité et l'utilisation du VME. Alors vous avez au-dessus les différents standards, celui qui n'est pas un standard d'acquisition, mais un standard, je dirais, au sens de l'instrumentation, vous avez le NIM à gauche, vous avez ensuite le CAMAC, vous avez le FastBus, et puis à droite le VME. Et dessous, vous pouvez voir à quoi correspond le CAMAC. Alors, c'est un ensemble de canaux physiques et de communication, c'est un ensemble de protocoles assez complexes. Le premier slide, ou plutôt le précédent, je l'avais intitulé « Des composants au système ». Là, je mets du système, je pourrais dire vers le composant, je mets dans le composant. Parce que, schématisant, si on dit qu'une carte CAMAC est de 300 à 500 portes, et tout dépend, je dirais, on va dire, du degré de complexité des composants, qui sont plus ou moins intégrés, mais c'est un ordre de grandeur. Si on dit que la carte FastBus, c'est de 2000 à, disons, 4000 ou 10000 portes, peu importe, on peut dire que ces composants peuvent tenir aujourd'hui dans un seul circuit, en l'occurrence un FPGA. Ce qui veut dire que si je schématise, c'est extrêmement simplifié, on va dire que grosso modo on peut arriver à mettre l'équivalent d'une carte dans le composant et l'équivalent de ce qui est autrefois un châssis dans une carte. Donc vous avez quelques idées de la complexité qui se trouve derrière. Une autre évolution majeure relève de ce que j'appelais le circuit 3D tout à l'heure, qui effectivement, celui-ci est un circuit hautement élaboré par un professionnel. Si on avait une photo qui zoome, on verrait que c'est effectivement de l'excellente technologie, mais par contre, ce type de technologie-là ne se prêtait pas à la fabrication en série. Le circuit imprimé est apparu très vite. Au LAL, vers 64, le premier circuit simple couche. Alors, j'ai retrouvé des éléments d'époque. Ce qu'il faut dire, c'est que les éléments matériels, je dirais les outils, étaient très simples. C'était la gomme et les crayons. Il y avait ce qu'on appellera, parce que tout le monde peut comprendre, surtout s'il y avait des gosses, c'est le rouleau de chewing-gum, c'est ce qui servait à tirer les traits. Il y avait des pastilles. Et voilà ce que ça pouvait donner à droite. Alors effectivement, aujourd'hui, nous nous trouvons, pour donner un exemple pris sur une étude classique, vers des cartes qui vont comporter 14 couches, non pas une, qui vont comporter classiquement 3000 composants, je cite des chiffres correspondant à des études réelles, des pistes qui font en largeur et en espacement 120 microns, 10 000 connexions ou nettement plus, et des composants de 500 broches. Vers la fin de la décennie, nous allons vers 50 microns, nous allons vers 20 couches ou au-delà, ce qui veut dire d'ailleurs que les traversées, les vias de communication entre ces couches deviennent inaccessibles parce qu'enterrées. Et vous avez sur la gauche, en couleur, vous avez une partie de copie d'écran qui correspond à la façon dont on gère ce que l'on appelle le placement routage dans des logiciels hautement sophistiqués. En l'occurrence, c'est Allegro de la société Cadence. Et vous avez cette espèce de carré où l'on voit l'empreinte. Et j'ai oublié tout à l'heure de commenter, il faudrait que je revienne, mais... Oui, je suis désolé, je suis allé un peu vite. Voilà. Quand on parle de FPGA, quelque chose qui est extrêmement notable aussi, c'est le fait que vous avez dessous une grille très dense qui permet d'assurer les interconnexions. Ce qui, en termes de technologie, est assez sophistiqué, demande des méthodes qui sont peu classiques. Ce qui veut dire que si l'on gère des millions de portes, on gère non pas des millions, heureusement, mais je dirais aujourd'hui à peu près, pour certains composants sophistiqués, jusqu'à 1000 broches qui se trouvent sous le composant, c'est-à-dire inaccessibles. Alors vous imaginez si on doit intervenir pour des réparations. Donc, cette espèce de figure, c'est ce que l'on appelle une empreinte, et l'empreinte, vous la retrouvez ici. Alors, je vais maintenant parler de ce qui a été, je dirais, une discontinuité, une rupture majeure, c'est l'arrivée des processeurs. Une autre des vitrines du laboratoire et du service électronique en particulier, c'est tout ce qui relève du traitement des données, en particulier de façon très précise, de l'acquisition, de ce que l'on appelle chez nous les triggers, c'est-à-dire les systèmes de décision. Et clairement, ils étaient faits jusqu'à l'arrivée du processeur par des structures, je dirais, qui étaient un peu artisanales, à base de circuits, et des structures figées, à savoir que la carte conçue, je dirais, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est plus qu'innovant, je dirais, ce qui est une véritable révolution, c'est qu'on arrive devant la possibilité d'une souplesse nouvelle parce qu'intervient le mot de programmation. Et puis ensuite, évidemment, ce circuit-là, à savoir le microprocesseur regroupant un grand nombre de composants, je dirais, c'est la voie vers l'hypersophistication des cartes extrêmement compactes et puissantes. Alors, on défilait une famille, un ensemble de familles, je ne vais pas détailler, d'aucuns reconnaîtront ce qu'ils ont pu avoir sous la main, mais un ensemble de familles et de circuits, de processeurs et de microprocesseurs en l'occurrence, qui ont défilé à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'on avait à peine réussi à devenir spécialiste dans un type de famille qui arrivait la suivante. On parlera aujourd'hui assez souvent de DSP, de processeurs de signal, c'est-à-dire c'est un concept qui va encore au-delà. Alors clairement, dans notre domaine et pour la partie numérique, c'est véritablement une révolution. Cette puissance de calcul des processeurs, dans un tout autre domaine, on le retrouve dans nos outils de travail. La CAO est arrivée en même temps au LAL et à lien de P3 avec ce qu'on appelait le logiciel SegMe en 85. L'IAO, c'est-à-dire, je dirais, si l'on sépare la conception assistée de l'ingénierie assistée, c'est-à-dire avec tous les outils de type simulation, les outils d'évaluation, alors que la CAO serait plutôt orientée vers la réalisation physique, ces ensembles-là, donc, 85-87, ne peuvent évidemment être performants que s'il y a les outils derrière. Moi, ce que je noterai, c'est deux choses. C'est d'abord que ces outils, je ne vais pas, mais plusieurs reconnaîtront, en l'occurrence, une console et une station de travail respectivement, qu'il s'agit d'outils qui avaient une puissance de calcul associée de l'ordre de 1 MIPS. Pour donner un ordre de grandeur, j'ai vérifié sur le web aujourd'hui, si vous achetez par un PC de dernière gamme, on va dire un Pentium récent, vous avez, même si les unités peuvent évoluer, vous avez l'équivalent de 10 000 MIPS. Alors ça, c'est impressionnant. Mais ce que je trouvais plus intéressant, c'est le fait qu'on a une démocratisation, simplement parce que le prix est passé d'un coût unitaire de à peu près 200 KF en 87 au coût que vous connaissez aujourd'hui au niveau des PC. Et je dirais que c'est la même chose pour les stations de travail. Et dans le service, nous en avons à peu près aujourd'hui une quarantaine. Ce qui veut dire que c'est l'outil de travail de chacun. Un aspect qui est extrêmement important et en rien négligeable, parce que chacun sait que les connexions, et même les mauvaises, et d'ailleurs si vous avez des problèmes avec votre téléviseur, il suffit souvent de taper dessus, c'est un problème de connexion aussi, mais les interconnexions jouent souvent et presque systématiquement un rôle majeur dans nos grandes expériences. Ça peut faire l'objet de développements spécifiques. Vous avez en particulier ce connecteur très élaboré, je dirais, qui n'a rien de banal, qui a été fait pour, mettre en œuvre des connexions sur un très très grand nombre, c'est pour Atlas, un très très grand nombre de coaxiaux hautement performants. Ce qui est notable, vous avez l'expérience de l'HECB, qui est représentée par un bus à très haut débit, c'est qu'on peut atteindre des débits qui aujourd'hui atteignent jusqu'à 200 gigabits par seconde. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire, par panier. Et apparaît la nécessité d'outils de simulation logicielle pour précisément traiter ces signaux de bus. Je passe maintenant à ce qui, pour moi, va au-delà de l'évolution. C'est, je pense, une révolution de nature culturelle. C'est ce que j'appelle le passage de la maquette au virtuel. Alors, pour poser le problème, je dirais qu'apparaît l'impossibilité d'accéder au nœud interne pour une sonde d'oscillo. Cela est vrai pour les circuits que j'ai présentés tout à l'heure, c'est la PAL, le FPGA, le circuit intégré, et on peut dire que le même problème va arriver avec les cartes dans la décennie à venir parce que simplement les couches internes seront inaccessibles. C'est le fait que les signaux et les mécanismes sont de plus en plus complexes. Concernant les circuits intégrés, il est clair que les problèmes de production, c'est la très très haute technologie, et effectivement on est calé sur les problèmes industriels, fait l'objet des cycles itératifs de, grosso modo, schématisons, 4 mois. Ce qui veut dire que toute erreur nécessite d'attendre 4 mois pour pouvoir la corriger. Les coûts, évidemment, sont à l'origine de problèmes majeurs, pour dire que la correction des erreurs devient un problème crucial. Le premier des outils à manœuvre LAL, c'est SPICE. Alors SPICE, je ne détaille pas, mais c'est, je dirais, un nom qui est connu dans le monde entier et qui est celui qu'avait choisi un étudiant qui a fait une thèse grosso modo vers la fin des années 78-79, un étudiant de Berkeley. Quand on voit ces courbes, on a l'impression d'entendre le cliquetis des imprimantes, je dirais, à papier perforé, parce qu'effectivement, c'est très fruste. On voit là que la courbe était faite d'étoiles. La description, le modèle était également très fruste. J'ai mis au milieu une copie que j'avais conservée, que j'ai donc scannée, d'un exposé que j'ai fait à l'époque, donc des années 90, où on montrait pour la première fois, je crois, c'était un CEIAC, la comparaison entre une courbe sur l'oscillo et une courbe avec sa simulation, et en notant que les décrochements de la courbe s'y retrouvent. Vous avez à droite une courbe récente, et d'ailleurs on voit dessus, c'est de l'ASGA. Donc c'est vraiment une technologie d'aujourd'hui. Dans le domaine du numérique, ce qui est extrêmement impressionnant, c'est la notion de synthèse. Les mêmes langages servent aussi bien à simuler qu'à synthétiser. Alors, en deux mots, c'est le fait qu'à un certain niveau de description, vous élaborez un modèle. Le modèle, c'est du texte. Et l'outil va lui-même générer la structure. Quand vous avez des millions de portes à mettre en œuvre, il n'y a pas d'autre solution. Derrière ces outils-là, ne nous cachons pas le fait qu'il s'agit aussi de mettre en œuvre des méthodologies extrêmement rigoureuses, complexes, pour des outils informatiques qui sont de même complexité. Et je dirais la terminologie aujourd'hui serait, j'en suis persuadé, abscondante pour un de nos grands anciens qui serait là. Si on lui parlait aussi bien pour les full custom d'éditeurs de layout, d'extraction, de vérification des RAC et ERAC, si on parle de circuit numérique, de RTL, de temporel, de je ne sais, etc. Voilà, simulation de faute et autres. Voici un exemple, je ne m'y attarde pas, un exemple d'écran de conception VLSI. C'est effectivement assez récent, mais c'est un exemple du laboratoire. On a parlé tout à l'heure de plans. Cette carte a d'ailleurs été montrée. Nous sommes en train de la livrer. C'est un gros travail de la part du service électronique et par ailleurs, en termes donc, de programmation du service informatique, aussi de la mécanique d'ailleurs. Et tout le monde comprendra que derrière cette problématique de spatiale, il y a le terme de fiabilité qui est essentiel. Pour une raison simple, c'est l'inaccessibilité. Ce qui est moins évident à chacun, c'est qu'on retrouve les mêmes contraintes d'inaccessibilité pour les gros détecteurs. Et si on schématise, on dira qu'un gros détecteur, même s'il ne vole pas, il est aussi embarqué. Ce qui veut dire que la fiabilité devient aujourd'hui un problème majeur. La fiabilité, c'est un des composants de la problématique dite de qualité. Et c'est aujourd'hui donc une problématique, oui, qui est tout à fait à l'ordre du jour. Je ne parlerai pas de management de projet, je ne parlerai pas de durcissement en radiation, ce sont des thématiques communes. La mutation du métier est évidente parce que tout évolue vraiment très très vite. Les composants, les outils, je ne vais pas détailler, on a parlé processeurs, je peux parler de technologie, des logiciels. Ce que je vais dire en deux mots, c'est que nous avons pu jouer, je pense, dans la mise en œuvre de ces logiciels, un rôle moteur au sein de l'INDP3. Je parlerai d'une spécialisation croissante parce que c'est une mutation de métier. On trouve des techniciens spécialisés dans le domaine de la CAO de cartes. Il est clair que les gens qui font des FPGA et ceux qui font de VLSI Full Custom ont des métiers différents. Et je ne commenterai pas, mais tout le monde comprendra que la participation de l'ingénieur dans l'atelier, c'est quelque chose qui a aussi disparu. Je vais terminer sur deux slides. La première, c'est pour parler donc d'une mutation, d'un changement qui est majeur. Il n'est pas de nature technique, c'est le fait que on est passé d'un labo de l'ENS, aux grandes collaborations. C'est le CERN dans les années 60, c'est DESY. Effectivement, quelque chose qui est extrêmement motivant, extrêmement stimulant, mais qui amenait des contraintes que l'on ne connaissait pas, liées à la compétition internationale, alors que jusque-là, on se trouvait lié à des contraintes locales. Il y a tout ce qu'on appelle les revues de collaboration, les procédures de qualité, et puis, pour une partie, il faut lire le partage, certains diront une certaine fragmentation du travail. Je ne veux pas commenter, mais il est clair que si ça ne concerne pas les cliniciens, ça concerne ses responsables. Apparaissent aujourd'hui les dossiers européens qui se traitent à Bruxelles et pour lesquels, effectivement, il y a une somme de travail non négligeable. Le problème des liens avec l'industrie a déjà été évoqué. C'est le problème des grandes quantités en termes de production. C'est effectivement une évolution du travail dans la mesure où c'est un suivi de production qui est une partie intégrante du travail de l'ingénieur ou du technicien. Et pour donner quelques ordres de grandeur, en 1973, c'est le premier gros détecteur Olal, c'était 12 000 voix, chambre proportionnelle multifile. En 1990, on parle de 100 000, les années 2000, c'est le million. Je termine. L'électronique demain, je dirais que c'est là simplement un passage de relais pour l'exposé suivant, qui sera fait par Christian Arnaud. L'électronique est clairement liée aux techniques expérimentales, donc il est clair que leurs défis sont les nôtres. Nous sommes, on ne peut plus se coupler. Qu'il s'agisse de Super LHC, du ILC, de Super Nemo, je dirais que nous commençons à travailler sur ces différents problèmes. Vous êtes persuadés que l'enthousiasme y est, les idées y sont. Et puis, je crois que ces diapos vous ont montré que les compétences y sont aussi. Merci.